RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Alors notre invité cette semaine, c'est Alain Juppé, maire de Bordeaux et ancien Premier ministre. Bonsoir.
Bonsoir, merci de m'inviter.
Oui, ben merci d'avoir accepté cette invitation parce que votre parole est rare. Vous venez de publier le dictionnaire amoureux de Bordeaux aux éditions Plon. Bordeaux, votre ville, votre autre passion avec Venise. Mais on va revenir en France si vous voulez bien. La France a connu...
Bordeaux est en France.
Bien sûr. Non, mais je parlais de Venise.
Venise, pardon.
La France a connu bien des conflits. Vous en avez fait les frais lorsque vous étiez Premier ministre en 95, lorsque le président Jacques Chirac ne vous a pas soutenu sur la réforme des retraites, il vous a lâché, il a cédé à la rue. Aujourd'hui, les gilets jaunes, bien sûr, c'est différent, c'est inédit, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de leader. Est-ce que c'est une sorte de mouvement du troisième type? Enfin, on a ce sentiment. Est-ce que Emmanuel Macron doit tenir bon? Et est-ce que c'est important pour la suite du quinquennat?
Un petit retour sur 95, puisque vous l'avez évoqué, Jacques Chirac ne m'a pas lâché. J'avais un projet en 95, c'était la réforme de l'assurance maladie.
Oui.
Elle a été faite. Et les ordonnances ont été prises et appliquées. Il en reste encore beaucoup de conséquences aujourd'hui.
Mais ça a buté sur la SNCF.
Et puis il y avait la réforme des retraites que j'avais juste évoquée, qui n'était pas prête et que j'ai retirée sans que Chirac m'ait lâché. Je l'ai fait de ma propre initiative. Bon, mais revenons à aujourd'hui.
Quand il cède, vous considérez qu'il ne vous lâche pas?
Non, c'est moi qui lui ai dit. Il y a un moment où il faut savoir faire des compromis.
Ça c'est votre sens du sacrifice.
Continuons sur l'assurance maladie et puis là on n'est pas prêt, donc on verra plus tard. Et le plus tard, vous voyez, c'est pas encore fait aujourd'hui. Mais revenons à l'actualité d'aujourd'hui. Tout le monde dit, nous comprenons le mécontentement de ceux qui manifestent aujourd'hui, et moi avec les autres, bien entendu. Je comprends ce mécontentement. Je me mets dans la peau de ceux qui ne peuvent pas faire autrement pour aller travailler que de prendre leur voiture. Mm-hmm. Quand on est dans une ville qui a un tramway, qui a un métro, bon, ça va. Okay. Quand on est à 20 ou 30 kilomètres de son travail, c'est tout à fait différent. Et donc, il est absolument indispensable que le gouvernement prenne des mesures. Il l'a déjà annoncé, peut-être faut-il les compléter, pour traiter la situation de ceux qui sont les plus fragiles et les plus atteints par la hausse à la fois du prix du pétrole, qui ne dépend pas de nous. Mmh. Il a baissé d'ailleurs depuis quelques jours, je me permets de le faire remarquer, et puis des taxes. Et là, c'est le deuxième.
Mais l'erreur, est-ce que c'était pas de cumuler justement cette taxe sur le gazole avec le prix de l'essence qui montait?
J'y viens, la taxe sur le gazole, là aussi, il faut dire la vérité. Hein. Nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps d'attendre pour changer fondamentalement de comportement. Nous allons dans le mur. Nous sommes déjà à un réchauffement climatique qui va au-delà des engagements que nous avions pris. Donc, il faut absolument que nous changions de comportement, et en particulier que nous cessions d'utiliser des carburants qui émettent à la fois du CO2, mais aussi des particules fines. Donc, la réforme de la fiscalité sur les combustibles fossiles, non renouvelables, est une nécessité absolue. Il faut la compenser, mais il ne faut pas l'abandonner.
Alain Juppé, il y a quelques jours, Emmanuel Macron regrettait de ne pas avoir réussi, je vais le citer, à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Est-ce que ça n'est pas ça qui est en train de s'exprimer, au fond, une crise de confiance profonde entre une partie des Français et la classe dirigeante en général ?
Vous avez raison, et le président de la République en convient lui-même. Mmh. Je crois qu'il faut bien distinguer les choses. Des réformes sont en cours depuis que M. Macron a été élu président de la République. Ces réformes sont nécessaires. Et certaines d'entre elles sont de très bonnes réformes. On voit déjà les résultats du dédoublement des classes dans les toutes petites classes de primaire, et les résultats très positifs que ça a sur la formation de nos enfants. Bon, je pourrais citer aussi l'assouplissement du marché du travail, qui donnera des résultats à terme. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça donne des résultats sur le chômage dans les 6 mois. La réforme de la formation professionnelle qui est en cours, donc il y a de bonnes réformes qui sont en cours.
Mais alors pourquoi y a-t-il ce sentiment de déclassement ?
Il y a eu des maladresses, incontestablement, et des maladresses de présentation que le président de la République a reconnues lui-même. Et c'est cela qu'il faut corriger. Il faut surtout se mettre davantage à l'écoute. J'étais ce matin au congrès des maires de France. Mmh. Il y avait là plusieurs milliers de maires. Il en ressort quand même quelque chose de très fort. C'est que le contact, la proximité avec nos concitoyens, elle passe très largement par les maires. On crache toujours sur les hommes politiques en disant qu'ils sont nuls, pourris, etc. Ce n'est pas le cas des élus locaux. Vous voyez ce qui s'est passé au moment des grandes inondations dans l'Aude. Qui a-t-on vu à la télévision au contact de leur population pour les aider les gens à se loger le soir, etc. Ce sont les maires. Donc, il faut aussi que les dirigeants nationaux retrouvent ce contact avec la base et en particulier avec les élus locaux ou les corps intermédiaires.
Je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les mesures qui ont été annoncées par Édouard Philippe la semaine dernière. Vous dites qu'il faudrait les compléter.
Moi je ne suis pas au gouvernement, il y a déjà des mesures qui ont été prises, il faut éventuellement étudier pour voir si on peut les compléter, mais ce que je dis, c'est que renoncer à faire la réforme de la fiscalité pour faciliter la transition énergétique et nous inciter à changer nos comportements, c'est inconfortable.
Donc il faut qu'il tienne, faut que le président tienne.
Oui, là-dessus, il faut tenir, il l'a dit, parce que là, nous mettons en cause notre vie, mais surtout celle de nos enfants et de nos petits-enfants.
Oui. On entend beaucoup dire qu'Edouard Philippe, vous l'avez sans doute entendu, cette expression est droit dans ses bottes. Or, c'est vous qui aviez employé cette expression en 95. Vous trouvez que ça convient à la situation aujourd'hui? Vous trouvez qu'Edouard Philippe, il est droit dans ses bottes? Ou peut-être même dans les vôtres, finalement, puisqu'il est un peu votre disciple.
Passons sur ce genre de formule. Il faut écouter, il faut aussi de l'autorité. Il y a des moments où il faut que le dernier mot reste à la loi. De même que le droit de manifester est un droit absolu qu'il faut respecter, mais le droit de circulation est aussi un droit, et donc bloquer, comme c'est le cas aujourd'hui, ou ça a été le cas en tout cas hier, les accès à nos grandes villes n'est pas non plus acceptable. Donc vous voyez qu'il y a des cas où il faut effectivement rester droit dans ses bottes. C'est ce qu'attendent d'ailleurs les Français. Ils ont aussi besoin d'autorité et de leadership. Et c'est ça tout l'art de gouverner. C'est trouver le point d'équilibre entre l'écoute, la concertation, la co-construction, et puis à un moment donné, la décision.
Les élections européennes approchent dans un contexte de montée des nationalismes. Est-ce que vous partagez l'inquiétude d'Emmanuel Macron lorsqu'il dit notamment le retour du tragique, il l'a employé plusieurs fois, et surtout lorsqu'il trouve des ressemblances à l'Europe de l'entre-deux-guerres et à la montée du nazisme des années 30?
Je ne sais pas s'il faut revenir aux années 30. Ce que je sais, c'est qu'il y a tout lieu d'être inquiet. Et je suis inquiet. Nous vivons dans un monde de plus en plus dangereux où ce qu'on a appelé le multilatéralisme, pardon de ce mot barbare, c'est-à-dire dire quoi? Tout simplement la recherche de solutions par négociation et non pas par la force. Eh bien, ce multilatéralisme, il est en panne aujourd'hui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne fonctionne pas, les Russes mettent leur veto sur un grand nombre de décisions, l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, est paralysée, la justice pénale internationale est en capilotade, et on en revient à quoi? Au concert des puissances, au nationalisme, et on sait ce que ça donne. On a vécu ça au 19e siècle, sauf qu'aujourd'hui, autour de la table des grandes puissances, il n'y a plus la France et l'Europe. Il y a les États-Unis, enfin, il risque de ne plus y avoir la France et l'Europe. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a quelques autres pays. Et c'est ça tout l'enjeu des élections européennes. Est-ce que nous allons continuer à exister ou pas dans le monde? Si l'Europe se disloque, et c'est possible.
C'est possible.
Elle peut se disloquer ou s'étioler petit à petit parce qu'elle est attaquée de toutes parts. Elle est attaquée par M. Trump, elle est attaquée par M. Poutine, elle est attaquée par la Chine, elle est attaquée de l'intérieur. Si l'Europe se délite, nous serons les vassaux des grandes puissances. Pour relever tous les défis qui sont devant nous, nous n'y arriverons pas tout seuls. Nous ne contrôlerons pas tout seuls les flux migratoires en provenance d'une Afrique qui aura bientôt 4 milliards d'habitants. Il faut le faire ensemble. Et je crois que les Français, au fond d'eux-mêmes, en ont conscience. C'est ça l'enjeu des Européennes. Et c'est pour ça que, même si je n'ai nullement l'intention d'être candidat ni de m'émêler de la stratégie électorale, moi je me prononcerai en disant voilà le projet politique qui me paraît le plus adapté pour redonner envie d'Europe.
Mais cette défiance qui s'exprime en Europe à l'égard de l'Europe précisément, est-ce que ça n'est pas quand même en grande partie la défaite des pro-européens, des amoureux de l'Europe qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour la faire aimer?
C'est beaucoup plus complexe que cela. Quand vous regardez un peu ce que les Français pensent de l'Europe, ils n'aiment pas Bruxelles. Et ils prêtent à Bruxelles tous les défauts du monde. Alors qu'à Bruxelles, qui décide? C'est pas des gnomes technocrates, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Mais en même temps, les Français sont parfaitement conscients que leur avenir dépend de la construction européenne. Je lisais récemment, vous savez, tous ces sondages qui paraissent, 72% des Français n'ont absolument pas envie de revenir au franc français. D'ailleurs, pour les jeunes générations, ça ne veut rien dire. Et 70% des Français sont favorables à une armée européenne. Donc vous voyez que c'est assez ambigu quand on dit qu'il y a un rejet de l'Europe. C'est vrai qu'il y a une incompréhension aujourd'hui, mais à condition de remettre les choses sur les pieds et dans la bonne direction, je crois qu'on peut redonner envie d'Europe. Pourquoi est-ce que l'Europe aujourd'hui suscite ce désamour? D'abord parce qu'elle a l'air impuissante. Elle semble impuissante à maîtriser les flux migratoires, à assurer notre sécurité et notre défense, à stimuler l'économie pour que nous soyons dans la course, notamment de l'économie numérique. Et deuxièmement, Ça me paraît aussi très important parce que nous n'avons plus conscience que nous partageons des valeurs communes. C'est ça qui est au fond des choses.
Oui.
La liberté, les grandes libertés démocratiques, l'équilibre des pouvoirs, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un bien commun européen qui n'est pas partagé dans beaucoup d'endroits dans le monde.
Mais j'entends bien, mais
pas ailleurs.
Comment...
C'est ça qui fait notre force et notre unité et que nous devrions défendre plus activement.
Ces valeurs de civilisation dont vous parlez, pourquoi aujourd'hui la montée effectivement des Trump, des Bolsonaro, des Salvini en Italie ou ailleurs, comment vous expliquez cette fascination pour ces hommes forts ?
Parce que sans doute, je l'ai dit, il y a le sentiment d'impuissance des démocraties traditionnelles, et puis tout simplement parce que nous ne nous battons pas. Il faut se battre. Hein, et moi, je veux une campagne européenne offensive. Nous sommes toujours en défensive. On essaie toujours de dire, ah oui, l'Europe, c'est pas si mal, etc. Non, il faut être fier de ce que représente l'Europe et expliquer sans cesse aux Français que beaucoup de solutions à leurs problèmes pourront venir d'une Europe plus efficace et plus construite. Regardez par exemple le contrôle des frontières. Dans les prochaines perspectives financières que propose la Commission, on va tripler encore le budget de Frontex. Voilà ce qu'il faut faire. Se donner les moyens.
Frontex, l'organisme qui contrôle les frontières.
C'est l'office qui contrôle les frontières. Donc il faut renforcer ses moyens humains, ses moyens matériels, ses moyens juridiques pour exercer un véritable contrôle. Et si on donne ce sentiment à nos concitoyens que l'Europe, effectivement, est efficace, eh bien, je pense que les choses changeront.
Mais regardez, sur les migrations, on voit bien que l'Europe peine à se mettre d'accord, vous l'avez dit, sur les migrations. L'Italie a été longtemps, presque toute seule, à gérer le fardeau des migrants qui arrivent sur les côtes. Aujourd'hui, elle dit non et elle renverse la table et certains sont persuadés que c'est la solution. Est-ce que cette forme de gouvernance, du coup de menton, en quelque sorte, a un bel avenir ? Parce qu'on a le sentiment que c'est ça qui se passe.
Je ne pense pas, je pense que c'est une stratégie d'échec, d'abord sur le plan économique.
Mais oui, mais ça marche électoralement.
Ça marche, on verra combien de temps ça marche.
Mais...
c'est tout récent, on verra bien, et on verra les conséquences pour l'économie italienne de ce qui est en train de se passer. Et puis, l'Europe, aujourd'hui, forme un ensemble. La politique italienne est peut-être en train de tarir un peu les flux à travers l'Italie. Quelle est la nouvelle route d'immigration vers l'Europe et vers la France ? L'Espagne. Donc vous voyez que si on ne se met pas d'accord pour avoir une stratégie commune, on sera de façon débordé d'une manière ou d'une autre. Il faut que sur l'asile en particulier, nous harmonisions nos règles du jeu. En revanche, sur l'immigration économique, ça c'est un point qui me tient à cœur, il n'est pas absolument indispensable d'avoir les mêmes règles partout. Il y a des pays qui sont en déficit démographique, l'Allemagne par exemple, qui ont besoin de main-d'œuvre extérieure. Il y a des pays comme le nôtre, où il y a un chômage encore de 10% et où on n'a pas besoin, globalement, d'augmenter considérablement la main-d'œuvre qui vient de l'étranger. Donc il faut aussi des règles qui soient adaptées aux circonstances particulières de chaque pays.
D'un mot encore sur l'Europe, la stratégie qu'emploient certains, notamment Emmanuel Macron, nationaliste d'un côté, progressiste de l'autre, est-ce que ça n'est pas un peu trop manichéen ? Est-ce que finalement ça n'est pas même contre-productif ?
Il y a des moments dans la vie, il ne faut pas faire trop simple. Hein. J'aime pas trop le mot de progressiste parce que ça ne veut rien dire. Mais enfin, je veux dire que dans l'esprit des gens,
qui est porteur du progrès,
ça ne veut pas dire grand-chose. Oui, le progrès, c'est un peu ambigu.
Ouais.
Mais le nationalisme, ça veut dire quelque chose.
Ouais.
Je vais citer quelqu'un dont je n'ai pas partagé les idées politiques, François Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre.
Vous
parlez de 1930. Je ne sais pas si on peut faire un parallèle avec 1930, mais on a bien vu qu'à cette époque-là, c'est la vigueur des nationalismes, entretenue d'ailleurs par ce traité de Versailles, qui était une véritable catastrophe et qui a favorisé cette montée de nationalisme, a conduit à la guerre. J'ai cité sur mon compte Twitter, ce qui m'a valu naturellement toutes sortes d'injures, puisque c'est la poubelle du monde, Twitter. Mais enfin, j'ai quand même mis sur mon compte Twitter une citation de Romain Gary, compagnon de la Libération, qui dit « Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Et le nationalisme, c'est la haine des autres. » Je crois que ça permet de bien définir
on l'a beaucoup réentendu, cette phrase. Alors, vous parliez de l'Afrique, vous en parlez dans votre dictionnaire amoureux de Bordeaux, parce que à Bordeaux, il y a 18% de personnes africaines donc, dans cette population. Vous parliez d'ailleurs de l'immigration, mais là, on n'a pas trop le temps, mais je voudrais qu'on dise un mot. On vous dit très en colère contre Emmanuel Macron à propos du Rwanda, depuis qu'une Rwandaise anglophone a pris la tête de l'Organisation mondiale de la francophonie. Le président se rapproche de ce pays qui persiste à rendre la France responsable du génocide des Tutsis en 93 et 95. Vous étiez Premier ministre en 95. Ça ne vous plaît pas, hein ?
D'abord, quand même, un mot sur Bordeaux et l'Afrique, puisque j'entends dans mon dictionnaire. Nous avons des relations anciennes, pour le pire. Hein, la traite des Gruyères et l'esclavage, je ne l'oublie pas, et le musée d'Aquitaine présente des salles où on raconte ce qu'a été notre histoire. Mais aujourd'hui, nous avons des relations très constructives, nous organisons régulièrement des journées des diasporas africaines, des journées qui s'appellent Bonne Nouvelle d'Afrique, où nous essayons de mettre en relation des patrons de PME français et africains. L'Afrique est un territoire qu'il faut encourager, dans lequel il faut que nous investissions. Les Chinois y sont, les Turcs y sont, d'autres y sont. Ouais. Et nous sommes trop frileux, alors que demain, ce sera un gigantesque marché que nous avons intérêt, là aussi, à accompagner. Alors, sur le Rwanda, écoutez, moi, je ne vais pas refaire l'histoire. Il y a quelque chose que je n'admettrai jamais, et je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour éviter cette falsification de l'histoire, c'est que la France soit accusée, la France ou le gouvernement auquel j'ai participé, celui d'Edouard Balladur, entre 1993 et 1995, soit accusé de complicité de génocide, parce que c'est un mensonge. Et ça, je me battrai, je le répète, avec la plus grande énergie. À partir de là, qu'on se réconcilie avec le Rwanda, qu'on accueille M. Kagame, qui est aujourd'hui un chef d'État respecté, très bien, je n'y vois aucun inconvénient. À condition que, et c'est ça la réelle politique, ce soit un peu donnant-donnant.
Il aurait fallu demander une contrepartie,
donnant-donnant.
En fait. Il aurait fallu...
On arrête d'accuser les responsables français de ce qu'ils n'ont pas commis, et les militaires français de ce qu'ils n'ont pas commis non plus.
Donc quant c'est une injustice qui vous met en colère.
Oui, ça me met en colère parce que c'est injuste, parce que c'est faux. Hein, et il faudra bien qu'un jour la vérité historique apparaisse dans toute sa...
Et vous comptez sur Emmanuel Macron ?
Pardon ?
Vous comptez sur Emmanuel Macron ?
Je lui ai dit ce que je pensais de cela, et je crois que les choses sont tout à fait claires, mais la puissance médiatique du régime de Kigali est étonnante.
Un petit mot à Alain Juppé de Laurent Wauquiez, qui ces derniers jours a fait une déclaration qui n'est pas passée inaperçue sur la PMA, la procréation médicalement assistée, qu'on va écouter très rapidement, et puis vous nous direz ce que vous en pensez.
Tout ceci a un nom, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Et on considère que tout ceci est sans merci et n'a aucune conséquence. La marchandisation des gamètes humaines ouvre le chemin à l'eugénisme.
Voilà, donc de la PMA à l'eugénisme, de l'eugénisme au nazisme.
Bon, écoutez, dans mon livre, je fais l'apologie d'une vertu de plus en plus rare, qui est la vertu de modération, chère à Montaigne, chère à Montesquieu. Et j'explique que la modération, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel chez l'être humain. Ce qu'il y a de plus naturel, c'est l'excès, c'est l'exagération. Monsieur Colomb a remis à la mode un mot grec, l'hubris, l'hystérie, on en a vu quelques exemples il y a peu de temps. En revanche, avoir des positions équilibrées, faire jouer sa raison plutôt que sa passion, c'est pas facile. Ça demande une certaine discipline, et c'est même une vertu. Alors, sur la PMA, la position que j'avais prise pendant les primaires, c'était effectivement de la réserver aux couples hétérosexuels en position de stérilité. Comme chacun sait, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, on voit bien que les mœurs évoluent. Donc moi, je suis prêt à en discuter. En toute vérité, en tout cas, invoquer le nazisme dans ce genre de choses, ça relève de ce que j'ai appelé tout à l'heure un peu l'exagération ou la tendance à l'hubris.
Donc lui aussi serait touché par ce mal.
Voilà, on a terminé.
Merci, on n'a pas eu le temps de parler de Michel Montaigne, parce que peut-être on a retrouvé donc son corps, son cercueil, mais pour l'instant...
Les archéologues sont très excités, ils sentent qu'effectivement on a retrouvé son cercueil.
On le saura dans quelques jours. Merci beaucoup, Alain.